comment se porte la langue ici au Québec, selon vous?
Ben, les sondages sont très clairs. Les Québécois sont d'avis que la langue se porte pas bien, surtout dans la grande région de Montréal. Je me promène beaucoup dans la grande région de Montréal. Notamment, il y a des Québécois d'adoption qui me disent « Moi, j'ai choisi le Québec parce que c'est francophone. Ma langue, c'est le français. Et je trouve difficilement un emploi parce que je ne maîtrise pas l'anglais. » Mais à l'inverse, il y a des Québécois d'adoption qui sont anglophones et qui, eux, auront aucune difficulté à se trouver un emploi, même s'ils ne parlent pas le français. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Et ça crée des dynamiques linguistiques à moyen et long terme où il y a des transferts vers l'anglais, où les gens vont finir par adopter l'anglais. Les données nous disent ça. Donc, il y a une réelle inquiétude. Et nous, on pense que il y a plus à faire que ce que le gouvernement a mis de l'avant. C'est des mesures qui sont pas toutes mauvaises, mais qui sont nettement insuffisantes par rapport aux défis. Notamment, on pense que le système d'éducation devrait se faire en français pour les allophones et les francophones, y compris le cégep. Puis on pense qu'au niveau de l'emploi, on devrait pas discriminer des francophones qui ont choisi le Québec en exigeant l'anglais pour des emplois qui, en fait, ne nécessitent pas une maîtrise de l'anglais. Sinon, on se retrouve dans des milieux de travail de plus en plus anglophones. Et ça conditionne l'avenir de la langue française au Québec, sans aucun doute.
Et justement, en parlant de ça, comment peut-on faire avec ces jeunes qui, aujourd'hui, on le voit très bien, que ce soit au niveau du domaine artistique, hein, que ce soit au niveau de quels que soient les arts de la scène, les jeunes d'aujourd'hui ont carrément une certaine préférence pour l'anglais et si préférence il y a, il n'y en a pas, il faut en sorte que les deux langues se mélangent. Est-ce que vous avez une opinion particulière sur le franglais, les élèves, les jeunes qui en même temps mélangent les deux langues?
Ben, c'est un signe du déclin du français parce que le franglais mène jamais au français. Le franglais, c'est le début de la transition du français vers l'anglais. On l'a vu dans toutes les autres provinces canadiennes où, malheureusement, le français est en déclin également, de manière importante. Et l'enjeu, c'en est un de fierté de notre différence. La francophonie au Canada s'est présentée comme un handicap sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan réputationnel. On valorise l'anglais, la culture nord-américaine, anglo-américaine, et le français, lui, est pas très valorisé. Si on retrouve pas une fierté de notre différence, une fierté de la francophonie, évidemment que les gens vont se tourner vers une culture anglo-américaine qui a un budget infiniment plus grand et dans un contexte aussi où nos intérêts de la culture francophone sont mal défendus par le gouvernement fédéral. On l'a vu dans les ententes avec Netflix, la place qu'on laisse au contenu francophone est très, très mince. Donc, c'est pour ça que nous, on prône l'indépendance du Québec, c'est qu'on est convaincu qu'une fois un pays, ce sera clair que la langue et la culture au Québec, elle se fait en français, mais également les fonds publics vont être utilisés à la valorisation de notre différence collective au lieu de la diminuer ou de la rendre le moins attrayant possible, comme on le voit dans les autres provinces canadiennes, malheureusement.
Un peu de politique, M. Plamondon. Je sais que en accord avec la loi électorale du Canada, généralement les élections ont lieu le troisième lundi d'octobre. Vous avez eu une information par rapport avec cela que tout va être fait à cette date, juste avant que je vous pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que ça va se faire?
On n'est jamais certain, mais il y a beaucoup d'indices comme quoi ça va arriver plus tôt que tard, ces élections fédérales. Mm-hmm. L'élection fédérale qui n'était pas nécessaire, je crois, qui vient plutôt là, d'une fenêtre d'opportunité perçue par Justin Trudeau qui cherche la majorité. Est-ce qu'il la mérite, cette majorité? Moi, je constate que malheureusement, l'utilisation des fonds publics souvent semble davantage un outil électoral qu'une politique de relance économique. Et la collaboration avec le Québec durant la pandémie de la part d'Ottawa a été souvent très, très discutable. Donc, voyons si le Parti libéral va prendre ce pari-là, mais il y a quand même des indices sur le terrain comme quoi c'est une élection qui va être tenue plus tôt que tard, peut-être dans la prochaine semaine là, que ce sera déclenché.
Justement, en parlant de ces élections, M. Plamondon, au niveau du Parti québécois, vous avez toute la diversité ici à Radio Centre-Ville qui vous écoute. Exposez-nous assez brièvement, s'il vous plaît, la vision du Parti québécois et convainquez-nous.
La vision du Parti québécois, c'en est une de citoyenneté partagée. aux yeux du Parti québécois, de nos membres, on est tous québécois. Et c'est important de réaliser qu'on est dans le même bateau, dans la même démocratie. Ce que le Canada, lui, propose, c'est la compartimentation des gens par ethnie ou par religion, par communauté. Et là-dedans, ben, les Québécois seraient un autre groupe de couleur de peau. Alors que nous, on s'oppose au racisme, évidemment, mais c'est parce qu'on croit à une société où tout le monde est Québécois, une société qui est juste, et où on a une valeur de citoyenneté. Alors que ce qui est proposé par Justin Trudeau, c'est vraiment ce qu'on appelle le multiculturalisme, là, une identité, non pas citoyenne, démocratique, mais une identité soit ethnique ou religieuse. Et malheureusement, ça peut mener à des conflits, des rivalités, des généralisations, donc des tensions sociales qui sont inutiles et qui, dans notre vision d'un Québec indépendant, n'auront pas lieu parce qu'on sera tous Québécois avec des bagages culturels divers. On peut avoir deux, trois identités, mais on misera sur ce qu'on a en commun puis la société qu'on bâtit ensemble plutôt que de ramener l'identité nationale vers des identités communautaristes, parce que ça crée des rivalités et ça détache de discussions importantes qu'on doit tous avoir ensemble. Peu importe notre région, peu importe nos différences, on est tous Québécois et cette vision-là, nous, on la porte avec fierté. Puis on pense que l'indépendance du Québec va amener cette citoyenneté-là, cette fierté d'être Québécois, peu importe nos origines. Malheureusement, fierté d'être Québécois qui est très dévalorisée dans le Canada.
Pour les prochaines élections, est-ce que, par rapport à tout ce que vous venez de m'expliquer, est-ce que vous avez un programme, par exemple, qui permet étape par étape d'asseoir cette vision dont on parle?
Oui, sauf qu'on a retenu plusieurs des choses qu'on a à dire, à proposer en raison de la pandémie.
Okay.
Le constat, malheureusement, c'est que pendant la pandémie, les sujets qui ne sont pas explicitement là, sur la gestion de la pandémie, n'ont pas d'écoute, n'ont pas de place. Donc, c'est certain que nous, on est là pour parler d'avenir. On a un projet d'avenir. On a hâte qu'on sorte de cette pandémie qui nous oblige à avoir des considérations très, très à court terme. Et cette fin de pandémie approche. Et nous, on est prêts à justement bien définir, bien engager un dialogue avec tous les Québécois sur les mérites de notre projet d'avenir, c'est-à-dire décider par nous-mêmes, avec nos propres impôts, nos propres choix d'une société francophone, différente et très, très innovante. Exister à l'international pour le Québec, ça va être une occasion extraordinaire de s'enrichir, mais aussi de rayonner. Donc, tout ça, on est prêt à le mettre de l'avant. Mais malheureusement, en pandémie, l'écoute pour quoi que ce soit d'autre que la gestion elle-même de la pandémie était très mince. Donc, on attend notre fenêtre, mais ce sera fait avant les élections, sans aucun doute.
Tout à l'heure, Monsieur Plamondon, vous parliez d'ethnie. On est content ici d'entendre que c'est quelque chose qui vous porte à cœur, le fait que on peut avoir deux ou trois identités, qu'on peut quand même unir nos différences pour faire la différence. Mais j'ai envie de vous poser une question par rapport à cette phrase, ce mot que vous aviez dit tout à l'heure. Foncièrement, vous vous opposez au racisme. Et là, je vais transférer ma question sur un cas récent où à Repentigny, un jeune homme apparemment qui avait des problèmes mentaux avait appelé la police pour essayer de porter secours à son fils, mais en lieu et place de ça, il a été abattu de préférence. La communauté noire est très 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 fâchée contre la police de Repentigny, vous en êtes courant très certainement. C'est quoi l'avis que vous avez sur un incident pareil?
On a fait des choix de société au cours des dernières années en portant au pouvoir des gouvernements libéraux qui ont beaucoup coupé dans les services sociaux, dans les services notamment sur le plan psychiatrique, du soutien social. Et les policiers se retrouvent dans une situation où ils font des interventions sociales alors que ni leurs outils ni leur formation les amènent à faire des interventions qui sont en lien avec une crise de santé mentale, par exemple. Donc, comment expliquer qu'on sorte un fusil pour un cas de crise de schizophrénie? Évidemment, comme politicien, je ne peux pas commenter chaque cas dont je n'ai pas une connaissance personnelle. Mais en effet, je comprends la crainte, surtout par rapport à ce qu'on connaît aux États-Unis. On veut absolument pas devenir un endroit où, comme aux États-Unis, l'intervention de la police ne peut plus faire l'objet d'une confiance parce qu'on voit que les interventions changent dépendamment des caractéristiques des individus. Ça, je pense que ça fait un grand consensus dans la société québécoise. Mais c'est aussi une question de se demander est-ce que les policiers sont outillés pour faire du travail social sur des questions comme la santé mentale? Est-ce que c'est normal que nous ayons voté, parce qu'on a voté pour ça en 2014, on a voté pour couper dans les services de soutien à des familles qui ont des gens, des cas de santé mentale qui doivent être encadrés. Lorsque la police arrive avec un fusil, c'est ça notre réponse comme société aux enjeux de santé mentale, on doit se questionner sur l'ensemble de l'organisation de nos services et l'enquête pour la question spécifique du racisme. L'enquête du bureau indépendant nous donnera les faits, puis on s'éclaire que moi, comme politicien, je vais faire un suivi là-dessus. Notamment, j'ai proposé déjà qu'on ait des caméras corporelles pour les policiers, de sorte que ces enquêtes-là soient simples à évaluer, parce qu'on a les images, on a vraiment l'heure juste, pour être certain que c'est justement qu'il y a de la justice. Parce que la justice, c'est important, il peut y avoir des erreurs, mais s'il n'y a pas de justice, là, on a un problème de confiance qui se développe envers les policiers qui ont un travail qui n'est pas évident. Je posais la question notamment à des policiers sur la distance qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est armé d'un couteau, tout en maintenant sa propre sécurité. Puis ce qu'on enseigne apparemment dans les écoles de police, c'est qu'il faut garder un 20 pieds de distance, en bas de 20 pieds. Les chances d'être poignardé avant de pouvoir réagir sont très élevées. Donc, il y a plein de considérations à évaluer, mais la confiance puis la justice me semblent ébranlées, particulièrement à Repentigny. Puis, c'est sûr que moi, comme chef de parti, je vais faire un suivi parce que faut être tous conscients qu'on vivra jamais heureux si on n'a pas confiance dans la justice puis la façon d'intervenir des policiers. Donc, c'est un dossier sur lequel je vais commenter là, aussitôt qu'on a plus d'informations.
Je rappelle pour ceux qui viennent à peine d'être branchés que nous sommes avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois. M. Plamondon, vous êtes également avocat. Il faut quand même le rappeler pour ceux ou celles qui écoutent. En parlant du Parti québécois, au niveau des différents axes de votre programme, on va essayer point par point de rendre ça plus clair pour l'auditoire. Est-ce que vous entendez, par exemple, par construire un pays beaucoup plus prospère dans cet axe de votre programme?
Ben, faut rappeler comment fonctionne le Canada. La moitié de nos impôts environ se rendent à Ottawa. Ottawa fait des choix ensuite sur comment dépenser cet argent-là. Notamment, Ottawa dépense beaucoup pour subventionner l'industrie pétrolière albertaine, qui est une industrie non seulement qui est hyper polluante, irresponsable sur le plan environnemental, mais qui ne crée aucunement de la richesse au Québec. Même chose pour Muskrat Falls, même chose aussi pour les traités à l'international où le Canada négocie pour le Québec des traités, mais souvent, les intérêts du Québec ne concordent pas, supposons, avec ceux de l'Ontario, de l'Alberta. Le plus souvent, nos intérêts ne sont pas servis. Donc, au niveau de la richesse, il y a vraiment un intérêt, d'une part, à décider nous-mêmes comment on dépense nos impôts pour créer de la prospérité et non pas encourager les projets, à mon avis, douteux sur le plan éthique là, que le Canada décide de soutenir. Mais il y a également toute une question de marque de commerce. Les plus petits pays, nos auditeurs qui ont un lien avec des petits pays savent que avoir un drapeau, avoir une présence internationale, avoir des missions commerciales, avoir une stratégie propre à nous pour se faire connaître et s'enrichir dans une économie mondialisée, ça vaut beaucoup en termes de prospérité. Donc, la vision d'un Québec indépendant, c'est tout simplement de veiller à nos affaires puis de se permettre de s'enrichir, alors que dans le Canada, les décisions ne sont pas prises en fonction de nos intérêts. Et malheureusement, ça donne plusieurs situations déplorables sur le plan des traités internationaux, mais de dossiers comme le pétrole, les dépenses du fédéral pour des projets comme à Terre-Neuve ou encore des décisions qui menacent notre santé, comme les pesticides, par exemple, des décisions qui nous échappent. Donc, il y a vraiment une question de prospérité, d'enrichissement dans le fait de devenir indépendant. il n'y a pas de doute.
Oui. Et justement, en parlant de pesticides, dans l'un des axes aussi de votre programme, l'environnement joue un rôle important. Vous êtes des défenseurs de l'environnement parce que vous voulez préserver l'environnement. Mais comment se fait cette forme de préservation dont vous prenez?
Ben, l'environnement, c'est non seulement la qualité de ce qu'on consomme en eau, en air, donc la préservation de notre santé, mais c'est également la question du réchauffement climatique. Et de la même manière qu'on vise finalement la durabilité du français, la durabilité de l'éducation, de service à la population, mais on vise à se donner un environnement qui est durable pour les prochaines générations. Et ça implique de lutter contre les réchauffements climatiques. Or, dans le Canada, c'est pas possible parce que nos impôts servent à alimenter les industries qui, justement, posent problème. Les mêmes argents seraient dépensés vers une transition énergétique, vers une économie verte, si on avait le pouvoir de décider comment on dépense notre argent. Donc, d'où la question environnementale qui est liée à celle de l'indépendance. Un Québec indépendant va être un endroit d'avant-garde en matière de lutte au réchauffement climatique, mais aussi en matière de qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on boit comme eau, de l'air qu'on respire. Alors que demeurer dans le Canada, c'est demeurer dans un pétro-gouvernement, c'est-à-dire que les lobbies du pétrole ont complètement infiltré autant le gouvernement Trudeau que c'était le cas sous Harper. D'ailleurs, le gouvernement Trudeau a plus dépensé en cadeau aux pétrolières que sous Harper. Donc, en sortant de ce pétro-gouvernement-là, bon, on se donne le droit de bâtir une société qui est plus durable, avec un environnement qui est plus sain pour nos citoyens.
Le Parti québécois aussi promet, M. Plamondon, ce qu'on appelle le social-démocratie. Et vous ajoutez même un mot d'avant-garde. Expliquez-nous un peu.
Ben, je pense que la social-démocratie, des fois, ça sonne comme un vieux terme.
Ça sonne comme une
chose du passé.
Ouais.
Mais pourtant, la justice sociale, l'équité sociale, ça nous tient toujours à cœur. Mm-hmm. On peut pas parler de justice si on parle pas d'éducation accessible pour tous. Si on parle pas d'un système de santé où on corrige la tendance des dernières années à privatiser à peu près tout, puis à laisser dans le système public des soins qui sont de moins en moins adéquats. C'est très injuste aussi pour les Québécois d'adoption, parce que quand on arrive au Québec, on n'a pas nécessairement $1 million en banque. Et donc, on ne pourra pas se payer un orthophoniste si jamais son enfant en a besoin. Même chose pour la qualité des services de santé, qualité des écoles. Si on veut une société qui est juste, il faut s'assurer que tout le monde a accès aux mêmes chances dès le départ. Et ça veut dire investir dans des services de base fondamentaux pour la prospérité de chacun, comme l'éducation. Donc, pour nous, c'est ça la social-démocratie. Puis oui, il faut la renouveler, parce qu'on l'a laissé de côté dans les dernières années. Puis on voit ce que ça donne. C'est une société qui a plus d'injustice, plus de violence, moins de compréhension, parce que à sa face même, c'est un peu injuste quand on regarde les services à la population, dépendamment de on est dans quel quartier et on a quel moyen financier. Nous, on veut ramener plus de justice, donc c'est pour ça qu'on parle de social-démocratie.
Monsieur Plamondon, on s'entend, on veut s'entendre bien sur le thème que vous venez d'employer en disant que tout le monde devrait avoir la même chance de départ. Vous avez des politiciens aussi de d'autres partis disent souvent ce tout le monde qui n'est pas forcément tout le monde, et j'aimerais plus ou moins comprendre, est-ce que le tout le monde que nous autres nous avons en tête, est-ce qu'il s'agit de ce même tout le monde? Et comment expliquer le tout le monde? Est-ce qu'on parle de toutes les communautés, toutes les ethnies, qu'importe la couleur, tout le monde devrait avoir la même chance, cette même chance dont on parle souvent?
Bien évidemment. Okay. C'est ça la notion de citoyenneté.
Okay.
C'est pour ça que plutôt que de concevoir la société par catégorie de citoyens, qu'ensuite les laisser se battre chacun pour certains avantages, on est bien mieux de se garantir à tous et chacun, peu importe on vit dans quel coin, peu importe notre âge, peu importe nos caractéristiques physiologiques, on est bien mieux de se garantir à tous et chacun la base de manière égale. Et c'est ça le drame des dernières années. C'est qu'on a voté pour des gouvernements qui allaient nuire le plus à des gens qui ont moins de fortune, et ça a des conséquences sociales graves après. Puis, c'est un choix démocratique, c'est ça le pire, c'est qu'on a choisi d'encourager le Parti libéral pendant des années, et ils ont coupé dans toutes sortes de services, ce qui fait que là, on est dans une société de plus en plus injuste.
Okay.
Qui est victime de ces injustices-là? ben, les personnes qui avaient peut-être moins d'économies, moins de moins fortunées, aussi les personnes qui viennent de rentrer dans la société québécoise parce qu'ils n'arrivent pas avec tous les avantages, puis justement les moyens financiers. Donc la privatisation, les coupures dans les services sociaux, ça donne des drames humains. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience que malheureusement, c'est le choix qu'on a fait. Il faut changer d'approche. Il faut viser l'égalité des chances pour tout le monde. Et ça veut dire de voter pour des partis qui offrent des chances à tout le monde au niveau des services fondamentaux, au niveau du soutien à la population. C'est ça la base. Et c'est historiquement ce qui nous a toujours distingués des États-Unis, une société qui est intolérante, raciste et surtout très inégalitaire. Ça crée de la stigmatisation, des catégorisations de gens, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de redistribution des ressources, il n'y a pas d'accès à un système de santé et d'éducation, et ça a des conséquences graves pour la vie des gens. Nous, au Québec, on a toujours dit qu'on se distinguait de ça, et qu'on bâtissait une société meilleure, plus juste. Il faut revenir à cette façon de penser-là.
Monsieur Plamondon, je vais vous poser la toute dernière question avant de vous laisser partir. Les élections arrivent. La communauté de Radio Centre-Ville ou les communautés sur Radio Centre-Ville vous écoutent là maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne ou plusieurs bonnes raisons pour qu'on choisisse de voter le PQ, par exemple, pour le public qui écoute là présentement?
Donc, on parle des élections dans un an à l'échelle du Québec.
Exactement.
On a besoin d'être unis comme Québécois. Mm-hmm. Et le Parti québécois offre une vision de notre société qui est capable de nous unir sur ce qu'on a en commun autour de ce que je viens de vous dire, là, qui est important. Plus de justice, puis un projet d'avenir qui va nous rendre plus riches. Il y a une quête des Québécois, mais aussi des peuples autochtones depuis longtemps, de s'affranchir d'un régime colonial, et je suis sûr que plusieurs de vos auditeurs savent c'est quoi un régime colonial de par l'historique, par exemple, de leur propre famille. Mm-hmm. Lorsque des Québécois d'adoption, des Québécois de peu importe la région au Québec, décident de nous appuyer dans une quête qui dure depuis des siècles, pour une société normale où on va tout simplement décider par nous-mêmes de nos lois, décider par nous-mêmes de comment on dépense nos impôts, puis exister à l'international, ce geste-là, c'est un geste de s'unifier, de s'unir, pardon, autour de notre destin commun. Mais j'insiste là-dessus, le Parti québécois, c'est une vision où on est tous Québécois et on n'est pas catégorisés ou séparés en raison de nos différences individuelles. Puis les différences individuelles, elles sont là, puis c'est une bonne chose. Mais il faut également réaliser qu'on a beaucoup en commun, notamment un pays à bâtir, un destin à bâtir ensemble. Et c'est ça la vision du Parti québécois. Puis c'est pour ça qu'on a besoin du soutien de tous les Québécois dans notre quête, qui va nous rendre plus riches, mais je pense une société où la citoyenneté, les questions d'identité sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus paisibles. Et c'est là qu'on a besoin d'encouragement de tout le monde.
Merci beaucoup, M. Plamondon, d'avoir répondu aux questions de Radio Centre-Ville.
Merci infiniment.